plan politique. Il a lancé une véritable OPA sur les partis politiques traditionnels pour se constituer une majorité au Parlement. Alors, nous allons voir en trois points ses forces en présence. Premièrement, Talon et ses obligés. Deuxièmement, ceux qui restent encore indécis dans la classe politique, qui ne s'engagent pas ouvertement. Troisièmement, le camp du peuple avec les patriotes. Et puis, quatrièmement, les perspectives et la place de la diaspora. Alors, que dire donc des obligés de Talon? Ce que j'appelle les obligés de Talon, c'est le groupe dont les 60 députés qui sont depuis hier devenus 59, puisque Eric Koundé s'est retiré du groupe, et ils se sont appelés majorité présidentielle, et aujourd'hui c'est bloc majorité parlementaire. Ils sont à 59. Ces gens-là, ils sont composés principalement donc des ministres d'Adjavon qui n'obéissent plus à leurs parents, à leur patron et qui sont plus talonistes que jamais aujourd'hui. C'est le PRD. Vous vous rappelez que son patron, l'homme sans foi ni loi, Adrien Ngbedi, après avoir tenté de nous vendre le candidat de Yair Boni et de la France, est passé dès le lendemain des élections aux côtés de Talon. Alternative citoyenne. C'est en fait un club dont les responsables, notamment Djogbenou, se présentaient comme des gens de la société civile et qui étaient déjà financés par Talon, et dont certains ont été imposés par Talon sur la liste de l'UN pour en faire des députés. Ensuite, vous avez justement l'UN, qui est un conglomérat de partis hétéroclites qui avait volé en éclat lors de l'élection présidentielle, les uns allant derrière Zinsou, les autres sous Talon et Adjavon, c'est-à-dire en fait derrière les écuries d'argent qui sont venues les premiers, deuxièmes et troisièmes dans cette élection présidentielle. Alors, ce groupe a montré ces derniers temps le désir de se constituer en parti unique. Mais il faut penser qu'ils ne croient pas tellement eux-mêmes. Mais si quand on voit depuis hier, depuis deux jours, que ceux qui se sont constitués en bloc de majorité parlementaire, c'est pratiquement tout le groupe des 60 députés devenus 59, c'est une partie des FCBE, c'est-à-dire en fait 15 députés qui sont passés à Talon, le reste qui résiste à rejoindre le Front pour le sursaut patriotique, une partie de l'ARB qui va avec Talon, les autres sont soit dans l'hésitation ou certains, en tout cas des personnalités de cette sensibilité ont également rejoint et soutiennent le Front pour le sursaut patriotique. Les indécis, il s'agit en fait de ceux qui n'affichent pas clairement une position aujourd'hui, dont les 23 députés qui avaient fait échouer la tentative de modification de la Constitution. Et ils sont aujourd'hui l'objet de pression et de marchandage de la part du pouvoir pour essayer d'en récupérer, constituer une majorité et revenir à l'assaut. Donc leur résistance dépendra aussi de la pression populaire qui hier les avait aidés à résister, et on devra en tenir compte. Ensuite, le troisième pôle important, c'est le pôle que j'appelle celui du peuple et des patriotes. Il s'agit en fait de tous ceux qui souffrent et se plaignent de la gouvernance Talon aujourd'hui dans le pays. On y trouve les patriotes, les progressistes et tous ceux qui ont acquis la conviction que la gouvernance Talon représente un danger pour le pays et qu'il urge de s'engager dans des combats pour sauver la patrie en danger. Ce camp s'organise de mieux en mieux et apparaît aujourd'hui comme étant en fait l'opposition véritable au pouvoir affameur, prédateur et d'impunité en place. Il offre la meilleure alternative viable au peuple béninois pour tourner la page talon et engager le pays dans la voie d'un développement harmonieux pour une nouvelle gouvernance qui prenne en compte les aspirations du peuple. La création du Front pour le sursaut patriotique constitue une avancée dans ce domaine. Tout est parti en réalité d'une conférence publique organisée par la Convention patriotique des forces de gauche le 16 mars 2017 à Cotonou, au terme de laquelle donc, les participants ont lancé un appel à la constitution d'un front de salut public. C'était quoi rencontrer l'adhésion des patriotes d'horizons divers et a conduit à la naissance du Front pour le sursaut patriotique le 22 mars 2017 à Cotonou. Parmi les membres fondateurs, on compte déjà quatre partis politiques, le PCB, le PLP, dont le premier responsable est présent dans la salle en la personne de M. Ngbadi, le PSD Bélier, le CDPA, Creusé pour le développement et le progrès, auquel s'ajoute la première centrale syndicale du pays, la CSTB, la FECENTRA Finance, l'UNCEB pour les élèves et étudiants, l'UNAPEB pour les parents d'élèves, la NADEC pour la défense des consommateurs, l'ODPH pour la défense des droits de l'homme, l'INIREF pour la recherche et la formation, le CUMAP pour les vendeurs et vendeuses des marchés, le MFLPP, etc. Le 20 avril, le Front pour le salut patriotique s'est doté d'une charte qui a été signée au CODIAM à Cotonou et a vu ses rangs s'élargir avec l'arrivée d'un cinquième parti, en l'occurrence donc le FCBE. Le FCBE, je vous le rappelle, c'était l'ancien parti du président sortant, président Yahi Boni. C'était son parti, dont une partie aujourd'hui se trouve dans l'opposition. 15 de ses membres, je le disais tantôt, sont passés de côté de Talon. En plus de ceux-là, donc, il y a des personnalités comme le président Soglo, le professeur Tewadjré, qui, pour ne citer que ceux-là, qui soutiennent et adhèrent au vu donc de ce front. En termes de perspective, je dirais que on peut résumer ça en ceci. Mobiliser toutes les forces de progrès pour aller à l'assaut de la gouvernance infâme de Patrice Talon. Le peuple a rejeté la consécration de la politique de famine, de gangstérisme d'État, d'impunité dans la Constitution. Le peuple béninois a eu raison d'infliger ce premier camouflet au pouvoir et ses agents. Il saura se doter d'une nouvelle constitution en temps opportun, une constitution qui sera nécessairement le fruit d'une constituante pour réunir les conditions de prise en charge de ses aspirations. Pour l'heure, le peuple béninois, les patriotes, doivent rester mobilisés pour faire échec à toute nouvelle tentative de révision opportuniste de la constitution. Le peuple et les patriotes doivent surtout avoir à l'esprit que si le pouvoir de Patrice Talon reste le pouvoir légal, il a perdu toute légitimité et qu'on ne peut plus rien attendre de lui pour conduire ce pays sur le chemin du développement. Il urge donc d'œuvrer à créer les conditions pour mettre fin à son pouvoir. Le peuple et les patriotes se sont dotés d'un cadre de lutte qui est le Front pour le salut patriotique, qu'un observateur avisé de la vie politique comme Sylvain Akindes décrit comme étant le front le plus large que notre pays ait connu depuis 1960. Notre comité se réclame modestement de ce front et entend contribuer au combat en cours pour sauver la patrie des griffes de Patrice Talon et de son clan. Ce front offre les meilleures conditions, la meilleure chance pour réunir les conditions d'une grande assise nationale, les états généraux du peuple, pour dessiner ensemble les contours d'une feuille de route qui prenne en compte les aspirations du peuple et mette en place un gouvernement patriotique pour engager notre pays sur la voie du développement. pour ce qui concerne la diaspora. Il est important que les membres de la diaspora et qu'en son sein on cultive l'esprit patriotique pour prendre conscience du fait qu'elle a mieux à faire que de servir de simples valeurs d'ajustement par les pensions alimentaires, les aides que nous envoyons à nos parents pour soulager la misère des gens, parce que nous devons en avoir conscience dans la diaspora et le revendiquer. Tous ceux qui prétendront au pouvoir dans notre pays doivent savoir que la diaspora est un atout majeur. On n'est pas là seulement pour soulager la misère. On peut être, en matière de ressources humaines, quelque chose de très important pour le pays. On peut et on doit être un gisement d'investissement pour le développement du pays, pour peu qu'un gouvernement patriotique mette en place les conditions qui favorisent ce retour au pays. Alors, pour arriver à cette fin, au niveau de la diaspora en tout cas, nous devons entreprendre des actions de sensibilisation et de mobilisation de la diaspora béninoise pour défendre ses droits envers et contre toute forme de sabotage. Nous devons dénoncer par tous les moyens les souffrances du peuple béninois qui fait les frais de cette imposture qui trône à la tête de notre pays aujourd'hui. Nous devons alerter les médias nationaux et internationaux sur le régime prédateur des libertés publiques, d'affameur des populations et de pillage des ressources du Bénin par Patrice Talon et son clan. La diaspora a un rôle à jouer. Il y a au sein de la diaspora beaucoup de gens qui rasent les murs, qui ont peur. Il faut savoir qu'il y a des gens qui prennent plus de risques que nous et qui sont sur le terrain tous les jours. J'espère que tout à l'heure, le témoignage d'un de ces personnages que nous avons invité comme témoin, grand témoin, nous racontera comment, par des sittings couchés, par la pression dans le pays, ils ont aidé les députés à résister et qu'ils se battent aujourd'hui pour qu'on réunisse les conditions d'un changement véritable dans notre pays. Je vous remercie.
Merci, monsieur le Chaussard. Nous allons passer donc la parole à notre frère Sepo Antoine pour faire son intervention. Merci.
Monsieur, dame, bonjour. Je m'appelle Antoine Sekou. Je ne sais pas s'il y a des gens qui me connaissent ici. Il y a des têtes que je vois, certes, mais je ne connais pas tout le monde. Bon, je me présente. Je m'appelle Antoine Sekou. Je suis ici en France depuis 50 ans, après mon bac à Opien. J'ai fait toute ma carrière. J'ai fait mes études ici, ingénieur.
Tu parles un peu plus fort, s'il te plaît.
Oui, d'accord. Voilà, je me présente. Je m'appelle Antoine Sekou. Vous en connaissez des Sekou?
Non.
Ben, pourtant, mon père a été longtemps patron de la police au Dahomey. Il a été le premier commissaire de l'Afrique occidentale française. Et donc, de par ses fonctions où j'ai vécu à Dakar pour faire mon primaire, j'étais en relation avec tous les hommes politiques de l'époque, avant l'indépendance. À l'indépendance, mon père est rentré au Bénin, au Dahomey plutôt. Et donc, je connais bien tous les hommes politiques aussi au Dahomey, puisque papa était patron de la police. Et il m'a toujours dit quelque chose, que mon fils aîné ne fait jamais, jamais de la politique. Parce que tu n'auras pas le courage de regarder les gens droit dans les yeux. Alors, j'ai fait ma carrière, donc après mon bac, je suis ici en France, où j'ai fait mes études d'ingénieur et complété par Sciences Po Paris. Donc je suis un peu ce qu'on appelle le Gotha de ce qu'on trouve ici en France. J'ai commencé à travailler. Et en 1996, j'ai commencé à être consultant pour la Banque mondiale. C'est-à-dire que je connais bien les problèmes africains. Mon cousin germain, Sébastien Gavon, qui avait un an et demi quand j'ai eu mon bac, est venu me chercher ici pour me dire, viens à mes côtés, c'était en 2008, pour être mon conseiller spécial au niveau du patronat béninois. Raison très simple, c'est qu'il dit que nous avons affaire avec des partenaires de l'aide au développement et on voudrait bien avoir quelqu'un qui puisse être dans un dialogue, dans un discours intégral avec eux pour pouvoir savoir ce qu'ils proposent au Bénin ou en Afrique est bien ou pas. Il faut avouer que, disons, avant cela, de part, bien sûr, l'affaire des fonctions de mon père, je suis M. Talon depuis 1987. Ça fait 30 ans. Je le suis. Je le suis parce que c'était du temps de Kérékou révolutionnaire. Et j'avais, de part mon père, j'avais des relations qui étaient au sein de ce régime. M. Vignore Tétévi, je ne sais pas si vous connaissez. M. Dossa René, vous connaissez. M. Viro Espéli, vous connaissez. Non, je dis ça parce que c'est très important. Et c'est ainsi que, disons, par Vignore, je sais comment...
Laisse les détails, sinon, en 15 minutes, on n'aura pas le temps de tout dire.
Non, mais je veux bien, mais c'est qu'il y a...
Laisse les détails et va direct dans le sujet.
Sinon, je vais dans le sujet pour dire que, disons, si je suis ici... Non, si je suis ici, c'est parce que le combat qu'on mène ici est très important. Pour vous dire que, depuis 87, suivant Talon, tu l'as... Talon a une qualité, que je reconnais, c'est un stratège. Quand il sait comment bâtir une stratégie pour aller au bout de ses intérêts. Le fait qu'il ait cherché, avec la présidente révolutionnaire, il ait pu avoir le monopole du coton. Tout à l'heure, on a cité le nom d'Adjovi Mathieu. C'est moi qui l'ai mis dans le coton. Fabron, vous le connaissez. Rodriguez, vous le connaissez. Pavignore, j'ai vu comment Talon a pu faire en sorte de les écraser tous. Quelques parties avec ce globe, Talon présent, et qui plus est, il a même continué son expertise en maîtrisant toutes les chaînes de valeur. Je m'explique. Pour la culture du coton, les engrais, c'est lui qui était adjudicataire. Les pulvérisateurs pour lesquels M. Vignore m'avait mis dans le coup, c'est lui qui a récupéré. C'est-à-dire, il maîtrisait aussi bien la culture, les insecticides, les pesticides, la cueillette du coton, la récolte du coton, la transformation du coton en fibres et les grains de coton en huile. Talon a maîtrisé tout ça, quel que soit le régime. Et ce que je dis ça parce que c'est très important, car quand Adjamon Sébastien m'a demandé d'être à ses côtés, conseil spécial du président du patronat, j'assistais à tous les conseils d'administration. Et j'ai vu comment Talon a pu, avec Yaïboni, prendre, l'accaparer complètement. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que quand Yahya Boni, en 2006, faisait sa campagne électorale, il venait au Gabon. Vous vous rappelez? J'étais à l'époque conseiller de Bongo, qui m'a demandé de prendre en charge l'OPT du Gabon pour faire Gabon Télécom, Gabon Post. C'est moi qui l'ai fait. Et tout ce qui était autorité juridique chapeautant les deux activités. Et j'ai vu comment Yahya Boni arrive au pouvoir, comment Talon a pu le cadenasser, et qui plus est, à côté d'Adjavon, il n'y a pas de conseil d'administration où Adjavon ne se plaignait pas devant Cotigan, premier vice-président du patronat, pour dire ce que Talon faisait. Car Adjavon aussi, sachant que, ayant fait le programme économique de Yahya Boni, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai suggéré, il lui a proposé à Talon, à Yahya Boni, de faire un partenariat public-privé. Parce qu'il s'est rendu compte que dans nos pays, en cas au Bénin, l'homme politique n'est pas financé par le pouvoir politique. Donc, il cherche de l'argent par tous les moyens. Et je vous le dis en connaissance de cause, connaissant Adjavon, quand je vais j'allais dans la salle d'attente de table d'Adjavon, tous les députés étaient présents là. Talon malin a su non seulement leur donner de l'argent, mais en plus a su en faire des obligés. Et je vous dis ça parce que pour attaquer Talon, tout ce qu'il fait aujourd'hui, moi, ne m'étonne pas. Pour attaquer Talon, il sait savoir comment le contrer. Non seulement le contrer sur le plan, disons, idée. Mais en plus, je voulais demander exactement à nous qui animons des partis politiques, comment dans le cadre de la législation, porter plainte contre les activités de Talon. Il ne s'agit plus de parler seulement, créer le buzz pour tout ce qu'il fait. Est-ce que vous dites, bon, je ne vais pas raconter dans les détails, mais je peux, tout à l'heure en discutant, je vais aller dans les détails pour vous dire que Talon, tel que je le connais, l'Adjovi Mathieu, c'est moi qui les ai mis dans le coton. Et je vous parle en connaissance de cause. Comment Talon a pu avoir le PVI? Je peux vous donner des exemples précis pour que vous le sachiez. Quand Yahya Boni est arrivé au pouvoir, Adjavon Sébastien, il a dit devant le conseil d'administration, Cotigan était présent, il disait à Cotigan, si jamais je dis des bêtises, tu me retiens. Le PV, c'est comment? Adjavon a dit à Yahya Boni, je suis le premier importateur du Bénin. je connais les failles du port de Cotonou. Aujourd'hui, le port de Cotonou a deux activités importantes, le scanning et le tracking. Le scanning, c'est comment contrôler les conteneurs avec un scanner. Le tracking, comment suivre à la trace les conteneurs qui sont en importation provisoire. Par satellite, comment les suivre. Il dit, moi, je suis prêt à financer cela dans le cadre de partenariat public-privé, mais tout en sachant exactement que, disons, c'est à la douane de le faire. Et il dit, dans le PVI, je suis prêt à financer donc tout ce qui est opération de scanning, et qu'avec les scanners qu'il y a, je suis prêt à dépenser des centaines de milliards pour faire en sorte que, disons, le chiffre d'affaires du port de Cotonou passe de 200 milliards à 600 milliards. Dans le PVI, il y a une disposition qui est très importante, mais que Talon a récupéré pour lui. C'est lequel ? C'est ce qu'on appelle la valeur consensuelle. Je ne connais pas la valeur consensuelle. La valeur consensuelle, c'est la base sur laquelle on calcule les droits de douane. J'achète ce produit à 100 francs CFA, la douane peut dire on va taxer à 20 francs CFA. Il dit, comme c'est l'État qui lève les impôts, moi je ne peux pas faire ça, c'est aux douanes de le faire. Deuxième chose, c'est le tracking. Comment suivre à la trace donc les conteneurs qui sont en importation. Il y a évolué le lendemain, réunit la douane et dit à Diavon, veut prendre votre place pour faire le boulot à votre place. C'est comme ça que cette idée qu'a Diavon a eue a été une idée plus revenue. Et comment Talon a récupéré cette idée-là? Talon a récupéré cette idée pour un truc très simple. Et c'est à Diavon qui parle toujours. En 2011, lors pour les élections présidentielles, Adiavon a dit à Talon, nous, hommes d'affaires, nous devons financer la politique. Il dit pour ces élections-là, 2011, moi je voudrais donner à chacun des quatre grands partis 1 milliard et demi de financement pour leur campagne électorale. Les quatre grands partis, FCPE, l'UN, PRD, RB. Tous les deux, ont été voir chacun d'eux, il ne restait plus que l'UN à aller voir. Pour aller voir l'UN, Adiavon a dit à Talon, je t'accompagne, on va aller tous les deux voir l'UN. En cours de route, Talon dit à Diavon, moi, les gens de l'UN sont si nombreux qu'au lieu de donner 1 milliard et demi, je vais donner 4 milliards. Diavon dit, mais non, qu'ils soient nombreux ou pas nombreux, il faut que ce soit égalité. Ah oui, c'est comme ça, tant pis, moi je vais dire. Et ils vont là-bas, ils vont à Moussou Bruno, que je connais aussi, de par mon père. Et Talon dit, Diavon veut me donner 4 milliards. Non. Diavon veut me donner 1 milliard et demi, moi je vous donne 4 milliards. Diavon explique. Et Talon dit, non, on va donner 4 milliards. Quand on retourne, Talon, au lieu de rentrer chez lui, va voir Yaï Boni, il dit, Diavon est un salaud. Hein. Il t'a donné 1,5 milliard, il va donner 4 milliards à Moussou Bruno. Et c'est là la genèse des problèmes entre Diavon et Talon, et Yaï Boni. Vous vous rappelez? Voilà les problèmes. Voici qui est Talon. Je peux vous dire ça pour que vous sachiez qui il est. Un monsieur malin, intelligent, mais qui n'a ni foi ni loi.
100 fois ni loi.
Pardon?
Les affaires, excusez-moi.
Non, c'est pas les affaires, ça. C'est des escroqueries.
Je vais te laisser 5 minutes.
Oh. Non, c'est-à-dire, je donne ces exemples-là pour après rentrer dans les détails. Pour vous dire que, disons, ce monsieur ne me tourne pas du tout. Est-ce qu'on fait ici est très important pour moi? Est-ce que je suis prêt à témoigner? Et non seulement ça, à être aussi actif. Parce que M. Adiavon attend beaucoup de ce que vous faites ici. Pour savoir comment contrer Talon. Et si Adiavon, mon cousin, m'avait écouté, il n'aurait pas été avec Talon. Il aurait été plutôt avec Lionel Zinsou, que je connais aussi de par son père, puisque son père, le président Zinsou, quand il était au pouvoir, papa était patron de la police. Et c'est moi qui ai créé l'UNDP, je suis membre fondateur de l'UNDP avec Zinsou ici à Paris, l'UNDP. Bon. Donc, aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui, Talon a créé au sein à la présidence tout un gouvernement bis. Et si je vous le dis, c'est en connaissance de cause, je vous parlais de mes études et de ce que j'ai fait ici. C'est le patron de Deloitte. Je me suis retrouvé un jour avec lui, cabinet de Deloitte, à un déjeuner. Il me dit, j'ai le fils Talon que j'ai embauché chez moi. Deloitte, c'est le premier cabinet mondial d'expertise comptable. Donc, il y a un conflit d'intérêts et un délit d'initié dans ce que nous voyons aujourd'hui. Et moi, je dis, par rapport à cela, que pouvons-nous faire pour montrer à Talon que ce pays ne lui appartient pas. Il a le pays en gérance et non pas en toute propriété. C'est ça le problème pour moi aujourd'hui. Et donc, je suis à vos côtés pour savoir comment y aller. Je peux répondre à vos autres questions après, mais je vous dis ça pour dire l'état d'esprit dans lequel je suis est tel que, disons, bientôt 70 ans, ce n'est pas le talent qui va me montrer le chemin pour faire quoi que ce soit. Je suis votre serviteur, votre obligé. Je suis plus âgé que ça, beaucoup d'entre vous ici et je suis prêt à vous accompagner dans ce combat-là. À Diavon aussi. Merci.
on va réenclencher sur l'intervention de Olivier Fabre-Rousseau. Donc Olivier, tout s'excuser, mais on va vous donner 15 minutes.
Ok.
Ah, tu essaies de